Vous écoutez France Culture.
Troisième temps de notre semaine consacré à l'histoire de l'hygiène, thème proposé cette année au concours des écoles normales supérieures. Lundi, nous avons tenté en compagnie d'Anne Viala de comprendre comment la médecine scolaire d'aujourd'hui était l'héritière ou non de l'hygiène scolaire de la fin du 19e siècle. Hier, mardi, le documentaire de Perrine Kervoin et de Charlotte Roux nous a mené en balade à Lyon, où s'est développée une municipalité providence, comme le disait un des intervenants, entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle. Demain, jeudi, nous débattrons des politiques de santé comparées en Europe entre 19e et 20e siècle en compagnie de Sandrine Cotte, de Gérard Jourlan, de Sophie Chauveau et de Calix Houdeman. Et aujourd'hui, eh bien, en ce mercredi, jour des archives, nous allons nous demander ce que furent les premiers pas de la psychiatrie justement au 19e siècle, grâce à des textes sélectionnés pour nous par Perrine Kervoin, qui a préparé cette semaine avec nous, des textes qui seront lus par Bernard Bouillon et commentés pour nous par Laure Murat. Elle est professeure au département d'études françaises et francophones de l'université de Californie UCLA. Elle est auteure de L'homme qui se prenait pour Napoléon, qui vient de sortir chez Gallimard et qui est sous-titré Une histoire pour une histoire politique de la folie. Et en 2001, elle était l'auteur également de La maison du docteur Blanche, célèbre famille d'aliénistes parisiens. Aude Fauvel est également avec nous, elle commentera également ses textes. Elle travaille à l'Institut Max Planck d'histoire des sciences de Berlin. Elle est spécialiste également de la psychiatrie au 19e siècle et elle prépare une histoire de la folie au 19e siècle qui paraîtra dans quelques temps chez Démopolis. Bonjour à toutes et pour commencer peut-être cette émission, puisque nous nous adressons, et pas seulement évidemment, mais à des personnes qui préparent les concours des écoles normales supérieures autour de ce thème de l'hygiène et que nous traitons de la question de cette préhistoire et de cette histoire de la psychiatrie au 19e siècle, il faut peut-être revenir en ouverture de cette émission sur un nom, celui de Michel Foucault, de sa fameuse Histoire de la folie, parue en 1961. Alors évidemment, quand on pense folie, quand on pense psychiatrie et quand on pense donc 19e siècle, on se dit c'est la période justement où l'État va imposer donc cette norme psychiatrique à ses citoyens, norme qui peut être par ailleurs comparée à celle de la prison. Vous travaillez l'une et l'autre sur ces questions de la psychiatrie au 19e siècle. Est-ce que on a beaucoup avancé sur cette question-là depuis le travail de Michel Foucault et en quoi le critiquez-vous, disons, vous positionnez-vous l'une et l'autre de façon différente de celle de Michel Foucault, Laure Murat?
Bon, d'abord, j'aimerais préciser que je crois que ça, c'est presque une évidence. On est tous les enfants ou les petits-enfants de Michel Foucault. L'histoire de la folie à l'âge classique, c'est tout d'un coup quelqu'un qui donne son statut d'objet épistémologique à la folie. Donc là, de ce point de vue-là, c'est absolument incontournable. Et il opère une critique extrêmement vivifiante. Mais j'aimerais rappeler que le livre date d'il y a 50 ans et que depuis 50 ans, bien entendu...
On a travaillé.
Alors, d'autres que nous, dont des gens comme Jacques Derrida, Marcel Gauchet et surtout Gladys Swain, qui me semble la personne qui a opéré la critique la plus juste et la plus pertinente. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Moi, évidemment, je me sers de Foucault tout le temps et je dirais tous les jours. Pas nécessairement, d'ailleurs, pour le critiquer ou abonder dans son sens, mais pour essayer de développer des objets parallèles à cette théorie qui précisément est tellement théorique qu'il faudrait peut-être mettre un peu de souplesse dans cette structure,
dans ce système,
exactement. Ça passe par les archives, mais évidemment, un travail dans les archives qui est différent de celui de Foucault. Foucault a une façon, de manipuler l'archive, qui, ça c'est bien connu, confine quand même à une sorte de malhonnêteté. Il coupe là où ça l'arrange. On fait tout ça, mais enfin, il y a quand même des limites. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, non pas nécessairement de bâtir un système pour ou contre la psychiatrie, mais essayer de travailler des objets différents.
Et quel type d'objet, par exemple?
Alors, mon dernier livre en est une illustration.
L'homme qui se prenait pour Napoléon.
Voilà. Essayer de comprendre les rapports entre politique et folie. Comment est-ce qu'on délire l'histoire? comment... Alors, évidemment, Foucault a étudié...
Quand
en
vous,
partie...
vous parlez de délire de l'histoire, c'est que vous expliquez dans ce livre, évidemment, combien cette histoire bousculée du 19e siècle, depuis la Révolution française jusqu'à la Commune de Paris, a eu des répercussions, à la fois sur la façon dont on envisageait, évidemment, la question de la folie, mais dont les individus eux-mêmes s'emparaient de cette histoire pour se la faire leur, d'une certaine façon, leur Murat.
Exactement. Ce qui m'a intéressé, c'était le discours politique du fou, parce qu'il existe, bien entendu, et la psychiatrie comme discipline politique. Donc là, on voit bien qu'on est à la croisée de plusieurs interrogations qui sont foucauldiennes et qui le sont moins.
Aude Fauvel, alors justement, vous êtes jeune historienne, vous allez publier donc dans quelques temps un travail justement sur cette question de la folie au 19e siècle. Et donc, vous vous inscrivez aussi dans cette foulée-là, celle de Michel Foucault, mais de façon là aussi un peu différente. Par exemple, en partant du principe qu'il faut aussi entendre la parole des fous, ce que d'une certaine façon Michel Foucault avait mis de côté soi-même en évoquant au contraire une sorte de grand silence. Vous dites il y a une parole des fous, Aude Fauvel.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme vient de dire Laure, on est tous des héritiers de Michel Foucault qui a enfin construit la folie comme un objet historique à part entière et non pas seulement fait une histoire de la psychiatrie comme une histoire avec des guillemets autour du progrès médical comme ça se faisait auparavant. Mais comme elle l'a aussi très bien rappelé, on est quand même un demi-siècle après la parution de cet ouvrage. Et il est vrai qu'en France, il est assez difficile, notamment quand on est un jeune chercheur, de faire de l'histoire en faisant des objets parallèles et distincts sans être immédiatement catalogué pro ou anti-Foucault, pro ou anti-psychiatrie, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est une aberration, parce que je ne comprends pas très bien ce que veut dire être pro ou anti-Foucault.
Ah bah ça pouvait vouloir dire quelque chose dans un combat idéologique des années 60 ou 70, mais aujourd'hui, ça peut-être...
Voilà, tout à fait. Et nous, je pense que la différence aussi, c'est qu'on fait une histoire historienne de la folie, ça je pense que c'est important de le préciser, qui a quand même été pendant très longtemps, en France en tout cas, une histoire faite par des philosophes et où, parce que parfois ce sont des doubles étiquettes, des médecins. Je pense que c'est peut-être aussi ce qu'on apporte, et là où on se retrouve, Laure et moi, c'est notamment le travail sur les archives. Et essayer de prendre les archives comme elles sont dans leur multiplicité. Voilà, alors donc effectivement, moi là où je me situe
c'est
aussi...
C'est quoi cette multiplicité d'archives dont vous parlez? C'est-à-dire c'est à la fois des registres, c'est ce qu'a compulsé Laure Murat pour son homme qui se prenait pour Napoléon, des centaines et des milliers de pages sur ces deux registres, mais c'est quoi d'autre?
Alors voilà, tout à fait, l'histoire de la folie, pour moi, c'est un objet pluriel, c'est un objet rencontre, c'est justement pas juste l'histoire de la psychiatrie, donc pas seulement l'histoire des textes médicaux. Et donc autour de l'histoire de la folie se joue bien sûr une histoire institutionnelle, donc tout ce qui est registres et archives d'hôpitaux qui sont encore assez peu inexplorés en fait, notamment sur certaines périodes, mais aussi tout ce qui est l'histoire culturelle et sociale de la folie. Donc finalement comment, parce que c'est
comment
une histoire à plusieurs
réagit.
Personnes, voilà. C'est une histoire avec les médecins, bien sûr, avec les patients aussi, mais aussi avec les familles, le petit personnel médical qui est aussi, je veux dire, les infirmiers, etc., qui est assez peu pris en considération, le personnel politique qui, bien sûr, prend des décisions évidentes.
Et comment c'est un débat public au 19e siècle?
Et comment c'est un débat public exactement au 19e siècle?
Périne Quimbran.
Oui, parce qu'on voit bien dans vos travaux, Aude Fauvel, et c'est d'ailleurs des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusque-là, qu'on a donné la parole aux fous au 19e siècle, à travers la presse, à travers le roman, et que les fous ont eu l'occasion de s'exprimer, et notamment de regretter la manière dont ils étaient traités dans les asiles, par exemple.
Oui, tout à fait. Et puis aussi, je pense qu'il est intéressant de noter, c'est que l'histoire de la folie est plurielle aussi en ce sens qu'elle est. On a souvent un peu cette idée monolithique que l'histoire de l'asile, de la folie, c'est un peu partout pareil, dans tous les pays, dans toutes les régions. C'est évidemment à nuancer. Là, je pense aussi que le regard de l'historien est intéressant. Et ce que décrit Foucault, c'est très français. C'est par exemple pas du tout la même histoire qu'on aurait, notamment par exemple en Belgique, tout simplement, de... petit pays, mais très intéressant de ce point de vue-là, ou en Grande-Bretagne. Et la façon dont les institutions ont été pensées autour de cette loi 38, donc on va bien sûr revenir autour de ça,
1838.
Et l'asile tel qu'il est conçu en France au 19e siècle, mettent de côté en fait un peu la parole du fou, quoique c'est à nuancer autour de Pinel, c'est à nuancer.
Alors justement, puisqu'on évoque ce terme, de ce nom de Pinel, peut-être il faut redémarrer donc cette émission avec vous, Laure Murin, pour expliquer combien ce personnage évidemment est très important et combien ce moment révolutionnaire est important, y compris dans la façon dont la politique s'insère dans cette question de la folie, Laure Murin.
Bien sûr, c'est le moment fondateur de la psychiatrie française. Alors Pinel, c'est un homme qui vient du sud de la France, il arrive à Paris, il a une carrière plutôt médiocre jusqu'à la Révolution, et à la Révolution, c'est déjà un homme qui a presque 50 ans, donc c'est un vieillard quasiment. Et c'est la Révolution qui va lui donner l'occasion d'exercer sa fonction d'aliéniste et finalement de fonder en quelque sorte la psychiatrie française, puisque c'est vraiment le moment où on donne aux fous le statut de patient.
Hein, avec le mythe tout de même de la libération des chaînes, qui est, il faut bien le rappeler, qui est un mythe, c'est-à-dire cette idée qui sera d'ailleurs transportée par l'iconographie républicaine, par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc de celui qui a décidé, comme cela, dans un geste de générosité à Bicêtre, de libérer les fous de leurs chaînes, c'est cela.
Oui, alors qu'en réalité, on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu ce moment fondateur qui a été raconté par son fils, et qui est une sorte d'élucubration que Foucault, d'ailleurs, a pris pour argent comptant, sachant très bien ce qu'il faisait, parce que ça l'arrangeait. En réalité, la libération des chaînes, elle s'est faite très lentement au cours du siècle. C'est davantage Pucin, le surveillant de Bicêtre.
Celui auquel Marie Didier a consacré un beau livre de littérature qui s'appelle « Dans l'enfer de Bicêtre », je crois.
Dans la nuit de Bicêtre. Voilà. Oui, absolument. Donc c'est davantage Pucin qui avait déjà la pratique de la folie dans les murs de l'asile qui a fait ça, mais Pinel garde toute l'aura du grand psychiatre et du grand philanthrope.
D'autant qu'il a des héritiers comme Esquirol qui vont évidemment porter plus loin que lui encore ce message-là au cœur du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, Aude Fauvel.
Oui, tout à fait. Cela dit, il faut remarquer que du point de vue, en tout cas de la conception des institutions et de l'asile, Pinel n'était pas forcément sur les mêmes lignes qu'Esquirol, qui va durcir. Donc ici, je pense qu'il est important de parler du traitement moral, qui est ce qu'on accorde à Pinel. C'est l'idée d'un traitement individualisé, en fait, par la parole, des aliénés très bien étudiés par Gladys Wayne, en particulier. Tandis qu'Esquirol, lui, va beaucoup plus insister, en fait, sur le traitement moral par l'institution. Ce qui est un décalage par rapport à Pinel, l'institution en fait se suppléant au médecin. Donc on est dans une continuité, mais en même temps une continuité un peu perturbée.
Pierrine Cabran.
Voilà, mais l'idée clé qui est à noter à ce moment-là, c'est qu'il y a une bascule dans le sens où on se dit que le fou, l'aliéné, peut être soigné. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir. C'est qu'à ce moment-là, on se dit qu'il y a un espoir et qu'il y a une possibilité de soigner les aliénés, qui sont des gens comme tout le monde et que tout le monde peut devenir fou.
Laure Murin.
Non seulement on peut les soigner, mais on peut reprendre langue avec la folie. Hein, ça, je crois que c'est très important. Alors, par des méthodes qu'on peut critiquer, Aude Fauvel évoquait évidemment le traitement majeur, qui est le traitement moral. Alors, moral, on entend bien que dans le mot, il y a ce double sens de mental et de moral dans le sens moralisant. Les deux sont exacts, hein, quand on lit bien attentivement les traités psychiatriques. Mais il y a aussi d'autres méthodes, comme la ruse, essayer de rentrer dans le discours du fou pour le ramener à la raison. Alors, on peut critiquer, bien sûr, la critique est facile, surtout un siècle et demi plus tard. Mais il y a une véritable tentative pour instaurer ce que Gladys Wayne a appelé un dialogue avec l'insensé.
Alors l'autre particularité, vous avez travaillé sur ce sujet-là pour un livre donc il y a une dizaine d'années, Laure Murin, c'était La maison du docteur Blanche. On va écouter quelques extraits de textes justement sur ce docteur Blanche, cette famille de docteur Blanche, justement tout au long du 19e siècle. La particularité, c'est aussi la concomitance entre des institutions publiques et des institutions privées, entre des maisons qui sont des maisons privées de repos, qui existent avant même la Révolution française, Laure Murin, et qui persistent tout au long du siècle, en même temps qu'il y a des grandes institutions publiques liées à la psychiatrie, à l'asile et à la folie.
Alors voilà un objet, par exemple, de connaissance qui demanderait à être vraiment fouillé et travaillé. L'histoire des institutions privées est très peu connue, très mal connue, pour une raison simple, c'est que les archives sont très difficiles à réunir.
Disiez vous-même, oui, qu'on pensait même qu'il n'y avait pas d'archives, par exemple, pour cette maison du docteur Blanche. Or, on en trouve tout de même. Si on cherche un peu, on peut trouver des choses, puisque vous avez réussi à faire un gros livre sur ce sujet-là.
Si on cherche beaucoup, oui. Si on cherche beaucoup, on finit par trouver, quelquefois. Et donc là, j'ai eu cette grande chance de retrouver dans une clinique privée actuelle, hein, qui fonctionne toujours, qui avait racheté la raison sociale Maison du Docteur Blanche et qui avait les archives. Donc ça, c'est évidemment des trésors extraordinaires. Il faut savoir que les maisons de santé privées ont un statut très particulier, qui est très ambigu, hein, et que, par exemple, elles servaient de prison sous la terreur. Donc ça a beaucoup occasionné des ambiguïtés entre le statut du fou et le statut du prisonnier politique. Mais c'est là aussi que s'exerce une psychiatrie qui peut être très intéressante et qui se démarque de l'institution publique par le fait que les psychiatres ont le temps de s'occuper de leurs patients.
Mais tout de même, c'est une des particularités aussi que j'ai noté en vous lisant Lormurin et en vous lisant Haute-Fauvel, c'est qu'il y a des allers-retours. On peut être à la fois responsable comme esprit blanche de cette maison du docteur Blanche dans la première moitié du 19e siècle et être également expecteur pour les maladies nerveuses à la Salpêtrière, ce qui était son cas aussi. Donc, d'une certaine façon, faire des transferts de compétences du système public et au système privé et vice-versa, Haute-Fauvel.
Ah oui, tout à fait. Ils ont généralement plusieurs casquettes. Ils peuvent être aussi experts médico-légaux. Ils peuvent aussi, par exemple, s'occuper des sociétés des prisonniers. Mais ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que même dans le cadre du système public, en fait, on a un peu un système à trois étages. On a les maisons de santé privées, un peu pour les gens fortunés. Après, on a les institutions publiques et on a les institutions, entre guillemets, sous contrat. Et il y a tout un réseau d'institutions religieuses qui sont...
Alors des charités
Oui, mais même en fait des asiles, en fait, par exemple la confrérie Saint-Jean de Dieu qui s'occupe des aliénés, qui vont être un petit peu en fait comme les écoles privées sous contrat. On a un petit peu ce double système qui d'ailleurs persiste aujourd'hui en France. C'est un peu un système à trois étages.
Alors, pour incarner un peu ce docteur Blanche, et en particulier celui qui fonde cette dynastie, Esprit Blanche, dont vous parlez, Laure Murat, dans ce livre de 2001 qui est édité chez Hachette Littérature dans la collection Pluriel, Bernard Bouillon va nous lire un extrait d'un texte de l'écrivain et critique Jules Janin qui brosse justement la carrière de cet Esprit Blanche.
Jeune encore, le docteur Blanche a vu venir à lui, à demi-fou d'épouvante, les vieux poètes de l'Empire épouvantés des premiers bruits de la naissante poésie. Il a vu l'Académie inquiète du Cénacle. Il a vu plus tard le Cénacle, à son tour, possédé de cette ambition perverse qui ne veut rien tolérer de tout ce qui s'élève ou se tient debout à côté d'elle. Il a accompli dans ses esprits malades des miracles d'habileté et d'intelligence. Tel qu'on lui avait conduit qui se croyait Homère ou Talma, il le renvoyait au bout de 6 mois, persuadé qu'il s'appelait Boniface ou Bernard, qu'il était bon tout au plus à jouer le rôle d'arbate ou à publier des poésies fugitives. Mais autant il était sans pitié pour les humiliations méritées, autant il était plein de grâce et de bienveillance paternelle pour l'artiste découragé, pour l'écrivain mal compris, pour le révolutionnaire convaincu, pour l'âme grande et souffrante, pour l'intelligence épuisée avant l'heure. Alors il apaisait, il calmait, il consolait, il relevait, il encourageait son malade. Il le ramenait dans les sentiers connus, il le traitait comme un père traite son enfant.
Alors évidemment, il ne faut pas prendre tous les textes au pied de la lettre. Laure Murat, ce texte de Jules Janin qui décrit donc un personnage qui traite ses malades comme un père traite ses enfants, c'est aussi celui qui met en place, comme à l'époque d'ailleurs, et il ne faut pas le juger à rebours, les saignées, les vomitifs, l'huile de ricin, les bains, les purgatifs, l'eau d'orge, justement, qui sont censés justement traiter cette folie à laquelle on s'intéresse. Alors il y a quelque chose qui rappelle le livre que vous venez de publier chez Gallimard et qui est sous-titré Pour une histoire politique de la folie, titré L'homme qui se prenait pour Napoléon, c'est cette passion des grands hommes qu'on voit, on imagine chez les fous à l'époque. Donc on se prend pour Homère ou pour Talma et on repart Boniface ou Bernard. Donc il y a aussi cette dimension-là dans le regard que porte la société sur ces aliénés.
Oui, c'est une affection qui est très répandue et qui va ne faire que monter au cours du 19e siècle pour des raisons que je pourrais détailler.
Bah, allez-y, détaillez.
et qui est une affection qui est la monomanie orgueilleuse, hein, ou la monomanie ambitieuse. Mais évidemment, sous ce terme, alors évidemment, vous rappeliez qu'il y a tous ces soins, hein, la purge, la saignée, etc., les vomitifs, l'idée étant de vider le patient de ses humeurs maladives, hein, et d'avoir recours à l'eau, hein, purifiante, comme sous l'Antiquité. Alors, pour débarrasser les patients atteints de tout ça, il y a ça. Évidemment, la psychopharmacologie n'existe pas.
Mmh. On n'utilise aucun médicament particulier.
Si, il y a quand même des médications, des choses comme ça, à base de plantes, etc. Et bien entendu, la psychanalyse n'existe pas. Donc, en gros, comment fait-on pour lutter contre cette monomanie orgueilleuse sous laquelle, en réalité, il y a plusieurs maladies. Hein, il y a plusieurs délires, il y a plusieurs affections. Il peut y avoir des dégénérescences du cerveau, il peut y avoir les débuts de ce qu'on appelait la paralysie générale, qui est en réalité une sorte de conséquence, la dernière conséquence de la syphilis, hein, qui provoque une méningo-encéphalite, donc, et qui, évidemment, par la suite, provoque des délires de grandeur. Donc tous ces délires de grandeur ont des sources très différentes. Et on se rend compte que dans les années 1840, par exemple, elle atteint un pic absolument considérable qui se trouve coïncider avec le retour des cendres et une sorte d'inflation dans les délires de ces hommes.
De ceux qui se prennent pour Napoléon.
De ceux qui se prennent pour Napoléon. Qui, là aussi, c'est curieux, délirent tous quasiment de la même façon. Alors là, je dirais juste une petite chose en plus. C'est que, bien entendu, faire l'histoire de la psychiatrie, ou faire plutôt l'histoire d'une certaine folie, c'est avoir recours uniquement aux archives psychiatriques. Donc quand je dis « les fous délirent tous de la même façon », c'est ce que je lis à travers la prose du psychiatre. Hein, ça, c'est évidemment, Aude Fauvel a, elle, étudié beaucoup la parole directe du fou dans les livres que j'écris. C'est une parole rapportée. Hein, je crois qu'il faut quand même faire cette nuance.
Alors, Aude Fauvel, il y a tous ces traitements, et puis il y a aussi une attitude nouvelle que l'on veut avoir en tant que médecin s'occupant des fous. On se dit il faut avoir une attitude ferme mais non violente. C'est l'intimidation sans brutalité théorisée par justement Esprit Blanche. C'est une façon d'être justement qui donne l'autorité naturelle du médecin face à celui qui délire.
Oui, tout à fait. Alors, cette notion d'autorité est effectivement très importante. C'est théorisé aussi par d'autres, de manière un peu plus rude, on va dire. Et là-dessus, il y a une polémique entre Blanche et Le Ray et d'autres qui est mise d'ailleurs en valeur dans le livre de Laure Murat. Parce que l'idée, c'est d'aider l'aliéné à sortir de son délire en rentrant dedans, mais en lui montrant les aberrations de son raisonnement, si besoin est, par autorité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par autorité? C'est un petit peu large. Ça va de l'autorité médicale, autorité ferme par le langage, mais d'autres le prennent de façon un peu plus large. Et on a ces images assez célèbres de la chaise tournante, par exemple, ou des bains froids, où il s'agit de surprendre l'aliéné dans son délire pour en fait finalement le faire passer à côté. Le délire, vous savez, c'est marcher à côté du chemin. Là, il s'agit de re-rentrer dans le chemin.
Périne Caron.
Oui, justement, il y a cette idée d'ailleurs qui est très présente, on le voit bien dans vos travaux, qu'il faut faire revenir l'aliéné dans une norme. Une norme, et donc pour le faire revenir dans cette norme, une des méthodes peut-être effectivement de le faire vivre dans un endroit calme, où il y a une structure familiale assez paternaliste, où on le fait travailler, on le fait parler, on lui propose quelques loisirs et on le jette dans l'eau froide de temps à autre. Mais voilà, il y a cette idée de lui redonner un entourage qui est proche d'une structure familiale pratiquement.
Oui, tout à fait. C'est intéressant au niveau de la question du Napoléon, de voir que par exemple l'inspecteur des asiles par Chape a été surnommé le Napoléon des asiles. Donc c'est un petit peu une métaphore qui fonctionne dans les deux sens. Il y a
comme
beaucoup...
Charcot d'ailleurs, qui ressemblait à Napoléon. On l'appelait l'empereur de la Salpêtrière.
Et bien voilà, on a toute cette métaphore de l'idée qu'en fait les asiles fonctionnent comme des petits potentats.
Tout puissant. Alors le tout puissant peut être bénévolant, mais il peut être aussi, il peut tourner au dictateur au petit pied. Laure Murat, c'est toujours l'ambiguïté qu'on peut avoir tout au long du 19e siècle vis-à-vis justement de ceux qui dirigent soit ces maisons de santé, soit des hôpitaux. Effectivement, avec des débats entre eux, puisqu'on voit bien que, par exemple, Esprit Blanche se lance dans un débat avec un des directeurs de la Salpêtrière sur la façon dont il faut se conduire vis-à-vis des patients, Laure Murat.
Ah oui, ça c'est très important. Vous faites allusion à François Leray, qui était, alors qui a beaucoup prescrit. C'est un homme assez intéressant d'ailleurs, hein, mais il a évidemment beaucoup prescrit la brutalité quand même. Il l'a d'ailleurs lui-même appliquée. Mais il a aussi établi d'autres méthodes qui sont beaucoup plus intéressantes. On a toujours tendance à isoler la même phrase très violente que Leray a écrit, puisqu'il dit, enfin en gros, c'est le coup, les coups, les chaînes, etc., et les privations pour l'aliéné. L'idée étant, comme la douche froide ou le bain de surprise, etc., de provoquer une crise chez le patient. Alors évidemment, on est horrifié par ce type de méthode.
Il faut voir, on a eu les électrochocs depuis, donc on sait ce que ça veut dire aussi. Aude Fauvel, sur ce point.
Oui, je voulais juste rappeler que ça, on est bien dans la période de début, première moitié du 19e siècle. Dans la période de la seconde moitié du 19e siècle, on va passer un peu à un pessimisme thérapeutique autour de la notion de dégénérescence. Mais cela dit, avec aussi des débats qui, dans le fond, se situent sur des lignes différentes, mais entre médecins, sur comment, en fait, faut-il soigner les fous, concrètement.
On va y venir dans un instant. On va écouter un deuxième extrait, justement, tiré du livre de Laure Murin, La maison du docteur Blanche, paru chez Pluriel Hachette Littérature. C'est le témoignage de son ami Alexandre Veil, le témoignage de l'ami de Gérard de Nerval, donc journaliste et écrivain, venu rendre visite, justement, à Gérard de Nerval, alors qu'il se trouvait à Picpus.
Gérard de Nerval m'ayant prié d'aller le voir, j'y allais. On me fit entrer dans une pièce grillée au milieu de la cour qu'on ferma derrière moi. Gérard me reçut cordialement en me disant qu'il avait une fièvre extatique, qu'on l'avait envoyé dans cette maison pour le calmer. Au bout de quelque temps, après avoir regardé les ongles de ma main, il me dit « Tu sais que je connais la science occulte des mains. Je vois que tu descends comme moi de bien haut, mais pour en être sûr, il faut que je voie tes pieds. Déchausse-toi, ôte tes bas, et je dirai d'où tu descends. » Ne voulant pas le contrarier, connaissant son mal, je me prêtais de bonne grâce à son caprice. J'ôtai mes bottes et mes chaussettes. Il inspecta religieusement les ongles et les doigts de mon pied. Cela fait, au vu de la femme, la concierge, qui suivait avec attention nos manèges, « Je vais te montrer les miens. Moi, je descends de Napoléon, je suis fils de Joseph, le frère de l'empereur, qui a reçu ma mère à Dantzig. Toi, tu descends d'Isaïe, tu en as tous les signes. » Je ne répondis pas. J'avais hâte de m'en aller, ou plutôt, j'acceptais les prophéties de mon malheureux ami sous bénéfice d'inventaire.
Voilà donc témoignage d'Alexandre Veil qu'on a tiré de votre livre sur la maison du docteur Blanche, Laure Murin, à propos de Gérard de Nerval, donc un Gérard de Nerval qui se prend pour descendant de Napoléon. C'est fréquent, hein, puisque c'est ce que vous racontez. Alors il y a ceux qui se prennent pour Napoléon, il y a ceux qui se prennent pour les descendants de Napoléon.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Nerval avait, j'allais dire, une raison pour croire cela, étant donné que son père était médecin de la Grande Armée. Et sa mère était morte, justement, dans une des campagnes de Napoléon. Et Nerval avait beaucoup souffert de cet orphelinat. Donc, et bien entendu, cette généalogie imaginaire s'incarne quand même dans des faits réels, on va dire. Je pense que l'identification à Napoléon, pourquoi est-ce qu'on délire davantage cette identification à Napoléon plutôt que Louis XIV, par exemple? Je crois que c'est le fait aussi que Napoléon, c'est l'usurpateur. Mmh. C'est celui qui est libre de toute justification dynastique et qui s'est fait tout seul, en quelque sorte. Hein. Et du coup, ça facilite la projection dans l'image de l'empereur.
Périne Cambron.
Et est-ce que c'est aussi peut-être le moment de dire qu'au XIXe siècle, il y avait beaucoup de réflexions autour des notions de lien entre génie, folie, création, folie, littérature, folie. Et le cas de Gérard de Nerval est assez emblématique de cette tendance-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se posait cette question. Est-ce que c'était l'écriture qui provoquait la folie? Est-ce que c'était la folie qui permettait d'écrire? Il y avait ce questionnement-là.
Oui, ça commence en fait avec quelqu'un qui s'appelle Louis-Francisque Lélu et qui a écrit un livre sur Socrate et un autre sur Pascal, mais qui a été quelquefois mal interprété parce qu'on pensait qu'il allait décréter que tous les génies étaient des fous. Or, ce qu'il voulait, c'était plutôt excuser la folie et faire comprendre qu'elle était humainement intéressante au point de permettre à des hommes comme, de produire du génie. Alors c'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème du 19e siècle, ça va ne faire que s'amplifier, bien entendu, et se mêler aussi à des conceptions organicistes. Je pense notamment à César Lombroso, des gens comme ça. L'anthropologie, reconnaître le génie dans la phrénologie en fait partie aussi, hein, dans la bosse des crânes, dans la forme du cerveau, etc. Donc la psychiatrie du 19e est obsédée par l'idée de localiser. Localiser le génie, localiser la folie et éventuellement le rapport entre les deux.
Aude Fauvel.
Oui, tout à fait. Et on a aussi beaucoup cette réflexion à l'époque sur qu'en est-il aussi du lien entre le rêve, le génie, la folie, aussi les drogues. Alors, autour notamment du médecin Moreau de Tours, qui va donc introduire les confitures vertes en France, la consommation du haschich. Et on voit bien, et ça c'est une longue histoire, hein, l'histoire de l'introduction des drogues qui au départ servent pour soigner, pour expérimenter, et finissent par devenir des drogues illégales. C'est une très très longue histoire parallèle avec la psychiatrie. Et je dirais qu'en fait, toute cette réflexion sur qu'en est-il du rêve? Qu'est-ce qu'on fait quand on rêve? Où se situe la frontière? Quelle est la frontière entre le délire, l'état de drogue et le génie? C'est une réflexion qui se poursuit en fait jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est une très longue filiation.
Laure Murat.
Oui, je crois que ça c'est très important, l'idée que à la fois le rêve, la drogue, où vous parliez de l'écriture, hein, c'est à la fois le mal et le remède. Hein, c'est une vieille idée, hein, une idée du Moyen-Âge justement. Le mal qui est aussi le remède. Et ça, je crois que c'est très important dans l'exploitation des différentes méthodes de la psychiatrie au XIXe siècle.
Alors, pourquoi justement vous expliquez donc la question de Napoléon dans votre livre, L'homme qui se prenait pour Napoléon, donc sur cette fonction d'usurpateur qu'il avait, donc cette position d'usurpateur qu'il avait par rapport aux querelles dynastiques et aux dynasties précédentes. Pourquoi, parce qu'il y a tout de même ça qui est au cœur de votre livre, Laure Murat, pourquoi cette question de l'histoire? Parce que vous pensez que cette question de l'histoire rêvée justement par les fous du XIXe siècle est importante parce qu'elle dit quelque chose sur cette société du XIXe siècle, en particulier sur les traumatismes qu'a subi cette société avec trois révolutions. Quatre révolutions, puisqu'il y a la Commune pour la terminer, donc la Révolution française, celle de 1830, et je n'ai pas parlé évidemment de la chute de l'empereur, celle de 1830, celle de 1848 et la Commune.
Ça a été absolument considérable. En réalité, j'ai commencé ce livre en m'interrogeant sur cette idée de est-ce que tous les fous se prennent pour Napoléon. C'était une boutade, évidemment. Mais en traversant les archives psychiatriques du 19e siècle, je me suis rendu compte à quel point les événements politiques sont traumatisants, bien entendu.
Il y a porosité entre ce qui est censé être en dehors et ce qui est...
Exactement. Et je serais tentée de dire que ça tombe sous le sens. Je lisais dans un grand journal du soir, il y a une semaine, que par exemple, le taux de suicide en Grèce a doublé depuis la crise. Mmh. Bon, on prend cette information comme on veut. Mais enfin, il est évident qu'il y a un impact. Et comment cela ne serait-il pas ? Hein, bien entendu, les réformes, les révolutions, l'horreur économique, la violence sociale,
donc la peur de perdre sa tête au moment de la Révolution française et après, la peur justement de changer de tête, d'une changer d'identité parce que la société elle-même a été coupée par cette révolution et cette terreur, ou la volonté justement de recoudre le tissu social en se prenant pour un personnage tout puissant aussi. Il y a cette dimension-là.
Exactement. Mais alors, bien entendu, étudier l'impact de ces événements, ça ne suffit pas, il faut comprendre les différentes strates de discours, parce que dans l'oreille du psychiatre, qu'est-ce qui est un délire politique et qu'est-ce qui est une passion morbide, hein, c'est très compliqué à tracer cette frontière.
Aude Fauvel sur ce point.
Oui, alors je pense que là, on est au cœur de la thèse du nouveau livre de Laure Murat qui me semble passionnant. On ne délire pas n'importe comment, suivant les périodes historiques. Le délire est aussi une construction historique.
Conjoncturelle
et qui s'imprègne et qui reflète l'époque dans laquelle on est. Et là, je pense que c'est la thèse très forte et qui d'ailleurs peut-être ne plaira pas à tout le monde, qui est dans la thèse du livre de Laure, que je trouve absolument passionnant.
Et vous avez noté la même chose par rapport aux sources qui sont les vôtres, justement ?
Oui, tout à fait. Et puis ça remonte à longtemps. C'est-à-dire, par exemple, et toujours sur cette idée des rapports ambigus du psychiatre avec son malade, par exemple, il y a Berbiguier de la Terre-Neuve du Tain qui va voir Pinel pour se faire soigner, qui est un fou littéraire extrêmement célèbre du 19e siècle, et qui finit par intégrer Pinel dans son délire et en fait un farfadet. Donc on voit ces espèces de liens. Et pour en revenir au lien avec la politique, par exemple, pendant la période révolutionnaire autour du magnétisme chez les Anglais, on voit apparaître un délire où les Anglais sont persuadés que les Français les manipulent à distance avec des machines magnétiques pour provoquer une révolution chez eux. C'est un délire très très localisé, très spécifique, très politique.
Laure Murat ?
Ça, c'est très étonnant. Je ne savais pas du tout pour l'Angleterre, mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de délires concernant le magnétisme, ouais. L'électricité, lancer, avoir l'électricité dans le ventre, lancer des imprécations électriques, magnétiques, etc. C'est donc, les découvertes scientifiques ça, sont aussi intégrées dans le délire.
Il faut dire que les découvertes scientifiques sont aussi intégrées dans le traitement des malades, parce que ces questions fulguration par l'électricité rentrent aussi dans le traitement des malades, en même temps qu'elles sont rêvées par les malades eux-mêmes. Une question, Pierre-Calvin ?
Oui, et vous disiez, Aude Fauvel, qu'on arrive aussi au milieu de ce 19e siècle à une déception, à l'idée que finalement, on a essayé beaucoup de choses, peu de choses fonctionnent, et qu'il faut arriver à ce constat que on le lit dans vos travaux, Laure Murat ou Aude Fauvel, qu'à peu près 5% de patients sortent guéris. Alors, bien sûr, ce sont les chiffres donnés par les archives. Peut-être qu'on n'aura jamais le véritable chiffre, mais c'est très peu, c'est-à-dire qu'il y a un constat d'échec au sein des aliénistes.
Oui, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu de cette théorie assez optimiste de l'aliéné, c'est-à-dire mais encore proche de nous, au dégénéré, c'est-à-dire constitutionnellement, différent, qui va dans sa forme la plus extrême aboutir aux théories eugénistes de l'entre-deux-guerres, où certains finissent par dire bah, écoutez, on ne peut pas les soigner, en plus ils vont transmettre leur tare aux générations suivantes, autant les éliminer. Mais ça, c'est un petit peu une déviation, et ça n'est pas, et ça j'insiste, ça n'est pas le cas de tous les médecins. Il y a des médecins qui vont se battre bec et ongles pour défendre une conception optimiste et thérapeutique de la psychiatrie.
Laure Murat ?
C'est tout à fait exact, et on voit, il y a un grand, ce que j'ai observé, Aude Fauvel aussi certainement dans ses travaux, c'est qu'il y a un grand découragement.
À quel moment ?
Ça commence au milieu du siècle, c'est-à-dire que c'est
1850,
en gros. C'est-à-dire que en même temps qu'il y a l'échec du traitement moral, il faut bien le dire comme ça, il y a un renforcement de la structure des asiles. Donc on comprend très bien que l'obsession sécuritaire va prendre le relais en quelque sorte de cette tentative de reprendre langue avec la folie, et cette politique est l'aveu même de l'échec thérapeutique.
Alors l'ombre de Napoléon sur le 19e siècle, on la connaissait, cette ombre, depuis les travaux de Sudhir Hazarising en particulier, sur le fait qu'il nous a raconté combien le personnage de Napoléon avait pénétré très profondément, jusque quasiment à l'orée du 20e siècle. On le redécouvre avec votre livre, Laure Murat, un extrait de ce livre qui nous est lu par Bernard Bouillon.
J'ai été médecin de votre père, lui dit Monsieur Férus. Venez causer près de moi, vous m'exposerez vos griefs et je vous ferai donner satisfaction. À ces mots, il l'entraîne familièrement, bras dessous, vers les arbres qui garnissent la cour, et lui demandant la cause de son agitation, il en apprend qu'il a fait 25 lieues à cheval. Mais, lui objecta-t-il aussitôt, vous devez savoir que lorsque Sa Majesté l'Empereur et Roi, votre auguste père, avait fait de semblables courses, ce qui lui arrivait souvent, il ne manquait jamais de se mettre au bain. Le malade offrit presque de lui-même d'en faire autant, et il se mit au bain, en effet. Encouragé par ce premier succès, M. Férus lui prit le bras et lui dit « Savez-vous que votre majesté a le pouls fort, dur, agité, et qu'elle ferait bien de se faire tirer un peu de sang, non pas au bras, car cela pourrait vous empêcher de signer vos ordres, mais à une petite veine du cou ?» Le malade consentit à se faire saigner. En 15 jours, le fils de Napoléon, saigné, baigné, consolé, était redevenu tout simplement le fils de son père.
C'est un extrait du texte d'Esprit Blanc, justement, dont on parlait, donc du danger des rigueurs corporelles dans le traitement de la folie. Cette réponse donc à ce médecin de la Salpêtrière qui date de 1839. Et il raconte donc cette histoire de celui qui se prend pour le fils de Napoléon. C'est un peu le point de départ de votre livre, Laure Murat, ce texte-là, justement.
Oui, ça a été en réalité le point de départ. Donc vous voyez, 10 ans plus tard, je reviens sur ces questions parce que évidemment l'anecdote me paraissait très amusante comme ça. J'ai un peu de mal à croire qu'on ramène quelqu'un à la raison de la sorte. Mais en tout cas, dans l'extrait, il y avait quand même beaucoup de pistes intéressantes à creuser.
Et donc ces saignées en particulier, 5 à 6 millions de sangsues étaient utilisées par an dans les hôpitaux psychiatriques de la première moitié du 19e siècle,
c'est ça ? Oui, ça fait partie des choses vraiment tout à fait épouvantables de la des thérapeutiques mises en œuvre dans les asiles, d'autant que ces sensions, on les plaçait quelquefois à l'anus chez les hommes, à la vulve chez les femmes. Il y a évidemment...
Derrière les oreilles parfois.
Derrière les oreilles, il y avait les sétons à la nuque. Il y avait, enfin vraiment, ce sont des instruments de torture, enfin, littéralement.
Alors comment évoluent justement ces pratiques médicales et psychiatriques dans cette deuxième moitié du 19e siècle qu'on n'a pas encore tout à fait abordé avec vous, Laure Murin et Aude Fauvel?
Ah, vous voulez dire du point de vue des traitements?
Oui, oui, la façon dont on l'envisage même, puisqu'on dit au milieu du siècle, on est en constat d'échec, déception. Qu'est-ce qui se passe après alors?
Alors voilà, en fait, on en vient à l'idée que finalement, les aliénés sont sans doute différents dans leur physique des gens normaux. Et on en vient à cette idée que la folie est héréditaire et en fait se transmet en s'aggravant. C'est ce qu'on voit chez Zola, donc là on a encore les liens psychiatrie-littérature, de génération en génération jusqu'à ce qu'aboutisse un crétin qui théoriquement est stérile. Donc si les aliénés sont physiquement différents de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors à partir de là va se dégager, y en a qui vont répondre rien en fait, on ne peut que les garder, les mettre à part, et là on rejoint cette idée de l'obsession sécuritaire, on peut un peu les calmer. Donc on voit apparaître après les sangsues la balnéothérapie qui va vraiment gouverner le second 19e siècle, et le bromure de potassium par exemple, qui est assez largement, qui est un peu un remède de cheval, qui abrutit un peu les malades. Mais il y a d'autres médecins qui disent être dégénéré, c'est pas forcément négatif. D'abord, on peut peut-être envisager des médicaments ou des manières de vivre avec une dégénérescence en liberté, et on peut quand même faire quelque chose pour ces gens.
Périne Cambran.
Oui, parce que ce qui est intéressant et qu'on voit dans vos travaux, c'est qu'il y a d'autres méthodes. En Angleterre, il y a des fermes, des asiles fermes, des colonies comme ça, asilières, où les malades sont en liberté. Et puis, il y a aussi des courants anti-aliénistes qui se développent. Alors, à la fois des courants d'écrivains qui dénoncent cet enfermement, et puis des courants de médecins qui réclament d'autres traitements.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on n'avait pas prévu de mettre autant de gens dans les asiles.
Oui, parce que vous expliquez quand même qu'on en est à 10 000 en 1839, aliénés.
Non, 1838, oui.
1838, oui, et qu'on en est à 110 000 en 1939. En un siècle, on a multiplié par 11 le nombre de gens qu'on met dans les asiles.
Voilà, et ça, c'est très peu connu. Il faut quand même savoir qu'il y avait de 6 à 8 fois plus de gens pendant l'entre-deux-guerres dans les asiles que dans les prisons, que certains asiles le plus gros d'Europe se situent en France. Clermont-de-Loise a eu jusqu'à plus de 4000 patients, ce qui est quand même énorme. Je l'ai visité, c'est une ville en fait, c'est une ville des fonds, on ne peut pas le dire autrement. Donc c'est énorme, et donc tout bêtement, je vais vous dire, ça coûte de l'argent. Donc au 19e siècle, bien sûr, il y a cette idée peut-être qu'on s'est trompé, etc. Mais enfin, ça vient aussi beaucoup d'une préoccupation pécuniaire. Doit-on réellement payer autant d'argent pour soigner ces aliénés si on ne peut pas les soigner? Voilà.
Puissance des lieux, vous racontez, Laure Murin, à la fin de votre livre, que vous êtes allé à toute fin de votre enquête, une fois que vous avez épluché les registres sur Charenton, par exemple, pour aller voir ce qu'était et à quoi ressemblait Charenton. Et là, vous avez été un peu stupéfaite de voir ce qu'était cet endroit. Endroit célèbre, évidemment, pour avoir accueilli pendant la Révolution française le marquis de Sade, mais resté très célèbre tout au long du 19e siècle.
Oui, c'est un endroit qui est extrêmement frappant, un endroit à la fois ouvert et fermé, très symbolique dans son architecture, avec une sorte d'étagement de murs aveugles. C'est un endroit qui tient à la fois de la caserne et du couvent, et évidemment dans un environnement qui, à l'époque, était bucolique, il l'est moins maintenant, puisqu'on entend l'autoroute de l'Est qui est juste à côté. Je précise que Charenton, qui s'appelle maintenant l'hôpital Esquirol, puisque c'est Esquirol qui l'a dirigé pendant un certain nombre d'années, est toujours un hôpital psychiatrique, pas seulement.
Il faut s'intéresser justement à l'emplacement de ces hôpitaux autour des villes, parce que chacun de ces hôpitaux ou de ces maisons de santé, chacune de ces maisons de santé, se trouve sur des collines, un peu à l'écart. On est soit à Montmartre, soit à Auteuil, Passy, juste à côté d'ici de la maison de la radio, soit on est à Charenton, soit on est à Bicêtre. Enfin, on n'est pas au cœur des villes, on est même très éloigné. Alors, c'est peut-être la théorie des vents, la théorie des humeurs, je ne sais pas qui préside à cela au départ, mais c'est aussi une façon de les mettre à l'écart, ces aliénés.
Bien sûr, je crois que dans tout ce qu'on a dit, il y a une chose qui ressort très nettement. Le fou est littéralement celui dont on ne sait pas quoi faire. Donc, on le met à l'asile, on le met à l'écart, on lui met une camisole ou on lui met une camisole chimique, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est la chimie qui se charge aussi d'abraser le délire et la parole du fou.
Alors, on a les hôpitaux parisiens, les maisons parisiennes, mais il y a aussi le territoire qui doit se doter progressivement à partir de 1838, de cette loi de 1838, Aude Fauvel. Chacun des départements doit avoir un asile, même si ça mettra un certain temps. Enfin, en gros, le territoire se peuple de ces lieux dans lesquels on enferme les fous.
Oui, donc au terme de la loi 38, chaque département est tenu d'avoir ou d'entretenir son établissement. Alors certains choisissent, donc, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir des contrats avec des maisons qui existent déjà, donc des maisons religieuses, et d'autres vont construire des bâtiments. Et on a une architecture d'à peu près une centaine d'établissements qui va se différencier sur tout le territoire. Mais même comme ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'Oise, on envoie des malades, donc Paris, qui est évidemment la ville pourvoyeuse d'aliénés, comme on dit à l'époque, envoie ses malades aux quatre vents partout. Ce qui fait qu'on a
souvent. Comment on a envoyé ses enfants?
Voilà, on a un peu des trajectoires de patients. C'est-à-dire souvent, on commence par un asile un peu central, Sainte-Anne. Quand on voit qu'on ne va pas guérir, on va un petit peu en banlieue. Ensuite, on va encore plus loin. Puis à la fin, on va très très loin.
Périne Guimond.
Oui, d'ailleurs, il faut peut-être revenir avec vous, Laure Murat, sur cet arsenal législatif qui accompagne le 19e siècle autour des notions asilières. Il y a cette fameuse loi de 1838. Il y a aussi d'autres choses. Et le politique se penche beaucoup sur cette question de la folie.
Le politique est très intéressé, bien sûr, par cette histoire de la folie. Esquirol est lui-même. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces psychiatres font partie de l'appareil d'État et ont des opinions politiques eux-mêmes, qu'ils appliquent à la fois dans leur thérapeutique et dans la façon dont ils gèrent les hôpitaux psychiatriques dont ils ont la charge. C'est-à-dire, c'était ça, évidemment, ce qui m'a beaucoup intéressé, une fois de plus, c'est la parole du fou, mais la décision politique, ce qu'il y a de politique dans la décision médicale.
Et il y a beaucoup de choses, dans l'évolution tout au long du XIXe siècle, vis-à-vis justement de ces fous et de ces aliénés dans la décision politique.
Il y a énormément de choses. Il y a, ne serait-ce que les méthodes de placement, par exemple, ce qu'on appelle le placement volontaire, le placement volontaire qui est en général du fait d'un tiers, ce qui est quand même une drôle d'appellation, d'appeler placement volontaire quelque chose qui est demandé en général par la famille. Mais évidemment, la loi de 1838 avait à la fois certains avantages, c'est-à-dire de donner un cadre législatif qui est quand même resté le même jusqu'en 1990. Donc ça a été une loi considérable, mais elle était aussi la marque de l'appareil d'État et d'une forme de mise à l'écart et de coercition dans les populations de la folie. Ça, c'est certain.
Alors, il faut bien dire, effectivement, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce 19e siècle, avec vous, Laure Murat et Aude Fauvel, eh bien, les positions des uns ne correspondent plus à l'avis des autres, d'une certaine façon, dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Il se trouve que le même jour, et vous le notez en ouverture d'un de vos ouvrages, Laure Murat, le 17 août 1893, on annonce dans le Figaro la mort de deux aliénistes célèbres, Charcot d'un côté, et le docteur Blanche de l'autre côté. Et un de ses amis raconte justement combien ce docteur Blanche était de la vieille école.
Souvent, je l'ai interrogé sur les méthodes nouvelles dont ses confrères plus jeunes faisaient grand tapage. Il les connaissait et les approuvait car son indulgence était infinie. Mais il craignait que ces méthodes nouvelles ne fissent un peu négliger l'ancienne, qui consistait à avoir pitié des malades. Il m'apparaissait comme le dernier modèle d'une race d'hommes désormais éteinte. Ses successeurs auront peut-être plus de science, je veux dire qu'ils sauront distinguer un plus grand nombre de variétés de maladies mentales, car pour les guérir, je ne crois pas même qu'ils aient le loisir d'y penser. Mais le vieux médecin lettré et charitable, préférant les hommes aux maladies, se méfiant de la science et plein de confiance dans l'humanité, c'est une espèce que j'aimais à retrouver dans cet homme si accueillant et si bon.
Voilà donc un témoignage. Vous pouvez le commenter, Laure Murat et Aude Fauvel, justement sur cette fin du XIXe siècle qui voit deux façons de concevoir le rapport aux malades, on pourrait le dire.
Oui, alors d'une part, tout simplement, il y a la psychiatrie privée qui est incarnée par le docteur Blanche, qui est une sorte de ce serait l'équivalent du médecin de campagne, si vous voulez, dans la psychiatrie parisienne. C'est un homme mondain aussi, bien entendu, et c'est certainement pas un théoricien. En face, vous avez Charcot, qui a dirigé la Salpêtrière, en tout cas une partie de la Salpêtrière, et qui a fait une avancée considérable en séparant l'épilepsie de l'hystérie, mais qui n'a pas évidemment abouti toute sa théorie, puisque, enfin, sa théorie n'a pas abouti, puisqu'il cherchait le siège de l'hystérie, qu'évidemment, il n'a jamais trouvé. Mais enfin, ça sera le rôle de Freud, qui suit son enseignement, et qui aura bien compris qu'il y avait un rapport avec la sexualité. Donc voilà, deux personnalités totalement différentes et qui ont évidemment beaucoup marqué ce deuxième 19e siècle.
Haute Fauvel, justement, sur ces querelles d'école qui vont être réglées au profit de qui, au bout du compte, à la fin du 19e siècle?
Alors, il ne faut pas oublier que Charcot se voulait neurologue, donc se voulait différent en fait des aliénistes et avait une approche en fait centrée sur les maladies qu'il appelait neurologiques, c'est-à-dire qui concernait plutôt les demi-fous que les fous à temps plein, si je puis me permettre. Et vous avez aussi cette figure de Valentin Magnan qui est extrêmement important dans le second 19e siècle autour de Sainte-Anne, donc qui ouvre en 1867 et dont il va rester le grand patron de Sainte-Anne, qui est, je dirais, la figure. Alors, qui gagne de Charcot ou de Magnan? C'est un petit peu compliqué parce que, comme vous le savez, Charcot est extrêmement influent de son temps, mais en fait va très vite être critiqué et passer à la trappe un petit peu. Enfin, c'est un peu compliqué la filiation de Charcot. Et du côté de Magnan, bon, on a toute une autre filiation, mais c'est aussi très compliqué parce que Magnan, entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, il y a un écart assez considérable.
Et puis, il y a aussi la prise de parole de ceux qui, à un moment ou à un autre, sont envoyés par leur famille, vous l'évoquiez tout à l'heure, leur Murat, malgré ou contre leur volonté, par leurs amis qui disent « tu devrais aller à cet endroit-là » et qui, d'un seul coup, se rebellent. Vous pouvez nous dire un petit mot sur le baron Sellière sur lequel vous avez travaillé Haute Fauvel, ce baron Sellière qui est l'ancêtre de celui qu'on connaît aujourd'hui et qui va gagner un procès justement pour avoir été mis en asile contre sa volonté d'une certaine façon.
Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que la Troisième République qui apparaît en 1870, donc là encore une fois, on retombe sur l'idée d'une histoire politique de la folie, il y a tout un discours qui va apparaître autour de l'idée que les asiles sont des bastilles modernes et donc en fait que les aliénés sont finalement plus des prisonniers que des patients. Et à partir de cette idée, les gens vont se mettre à écouter. Alors attention, dans une certaine mesure, hein, c'est pas non plus, voilà.
On va voir Gambetta, Clémenceau, Hector Malot, etc.
Gambetta, c'est quand même très intéressant. C'est la figure marquante de la Troisième République. Sa première demande, sa première déposition et son grand discours devant le corps législatif, c'est pour demander la révision de la loi 38 au cri de « il faut libérer les aliénés ». Donc voilà, donc on a ce discours-là. Et alors, le baron Sellière, c'est intéressant parce qu'il a tourné en ridicule Charcot, entre autres. Mais c'est un type, si vous voulez, qui a cherché à contourner en faisant appel, en fait, à l'aide des États-Unis. Donc en transformant la folie en objet et en enjeu de politique internationale et en disant, la France, contrairement à ses idéaux démocratiques et républicains, ne protège pas les droits des patients et en faisant appel à la nouvelle République, les États-Unis.
Laure Murat, pour conclure, vous attendez de plus en plus de travaux sur ces questions-là, des jeunes étudiants qui pourraient se mettre sur ce sujet-là, parce que, comme on vous l'avait montré à la fois pour votre livre sur le docteur Blanche, mais encore plus pour l'homme qui se prenait pour Napoléon, eh bien, il y a foule d'archives, il y a de quoi faire et on peut y aller sur ce sujet-là en rénovant, en rendant hommage, comme vous l'avez fait toutes les deux au début, aux grands anciens qui étaient Michel Foucault et ses successeurs, mais également en rénovant totalement cette vision historique de la folie au XIXe siècle.
Ah oui, j'ai tout à fait confiance en ça, parce que je suis d'une nature optimiste. Mais en tout cas, il est évident qu'il y a une terra incognita qu'il faut absolument défricher. Haute Fauvel en est le meilleur exemple, mais je veux dire, dans les prochaines générations, il est évident que là, il y a de nouveaux objets de connaissances à créer, ce qui est en quelque sorte la fonction de l'historien.
Alors justement, pour pouvoir compléter cette émission, n'hésitez pas à vous plonger à la fois dans la maison du docteur Blanche et Hachette Littérature et le tout dernier livre, donc Laure Murat, L'homme qui se prenait pour Napoléon pour une histoire politique de la folie. Et puis, avant même les concours, puisqu'on travaille aussi pour ces étudiants qui préparent les concours des écoles normales supérieures, on aura peut-être votre livre, qui sait, au printemps prochain, Haute Fauvel.
Écoutez, oui, j'espère.
Chez Démopolis. On l'attend donc en tous les cas avec impatience. Merci à toutes les deux d'avoir bien accepté de participer à cette émission, donc au cœur de cette semaine consacrée à l'hygiène. Demain, nous continuerons avec vous, Perrine Kervran, en nous intéressant aux politiques de santé en Europe entre le 19e et le 20e siècle.
Merci.
À la technique aujourd'hui, Dimitris Capolan. À la lecture des textes, Bernard Bouillon, que nous remercions bien évidemment. Et à la réalisation, Charles Trou. Comme d'habitude, www.franceculture.fr pour écouter cette émission pendant 500 jours, la télécharger pendant une semaine et laisser vos commentaires.